Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs. Eh bien, c'est le moment pour nous de passer un peu plus de temps dans la parole de Dieu. Nous sommes le premier dimanche de l'année 2024, le début de l'année est généralement le moment où les uns les autres prennent des résolutions. Lire davantage, faire plus de sport, quitte à acheter un petit chien pour que l'on puisse faire plus d'activités. Certains peut-être voudront faire comme j'aime parce qu'on promet de perdre des dizaines de kilos en quelques semaines. Enfin, vous connaissez votre liste. Voilà. Enfin, Dieu nous a permis de terminer l'année 2023 et d'entrer dans l'année 2024. Nous pouvons vraiment le remercier pour tous ses bienfaits, le remercier de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Notre souhait, c'est de pouvoir marcher aussi avec lui durant l'année 2024, de progresser dans la sanctification, dans le service, dans l'amour pour le Seigneur, les frères et sœurs, et de savoir aussi nous reposer sur lui, nous reposer sur ses promesses. Comment donc persévérer jusqu'au bout? Comment jouir du repos de Dieu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos du Seigneur Jésus. Lui seul peut donner ce repos-là. Comment jouir de ce repos durant notre pèlerinage? Où trouver les forces, la détermination pour aller jusqu'au bout de l'année 2024 malgré tout? On a dit déjà Pierre, notre frère a lu Pierre ce matin, l'épître de Pierre. Voilà déjà des éléments de réponse. Dans Hébreux aussi, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Et justement, les lecteurs de la lettre aux Hébreux avaient bien commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais devant les difficultés de toute nature qui duraient, qui s'intensifiaient, ils étaient tentés de retourner en arrière, de retourner à leur ancienne vie, d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ, de retourner à leur ancienne religion. Ils étaient découragés. Et l'auteur de l'Épître veut les encourager. Sans connaître les mêmes difficultés que ces chrétiens hébreux du 1er siècle, la persécution, le rejet de la famille et toutes ces choses de difficultés. Nous pouvons aussi, nous chrétiens du 21e siècle, être tentés de baisser les bras, de douter des promesses de Dieu, de douter de la toute-puissance de l'œuvre de Christ, de douter qu'il est avec nous tous les jours, qu'il nous accompagnera jusqu'au bout de notre carrière. Le remède à ce découragement et peut-être à cette apathie est de méditer à nouveau et encore sur le Seigneur Jésus-Christ, sur l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, de méditer sur la grâce de Dieu afin de persévérer dans la foi en Jésus seul, car lui seul a fait la grande œuvre d'expiation qui nous rapproche pour toujours de Dieu et nous permet de traverser toutes les turbulences de la vie. Je vous invite à ouvrir avec moi le psaume, vos Bibles, au psaume 103, pour découvrir à nouveau les bienfaits de la grâce de Dieu. Donc prenons notre Bible au psaume 103. On peut trouver surprenant que la grâce de Dieu se trouve déjà dans l'Ancien Testament, mais notre Dieu est un Dieu de grâce depuis le début. Il a fait un grand plan de salut depuis le début, dès la chute, pour les hommes, pour la nature, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que les hommes soient réconciliés entre eux, pour que la nature soit réconciliée avec les hommes, et cette œuvre, il l'a accomplie en Jésus-Christ. Et David écrit ce psaume qui est un hymne à la grâce de Dieu. Psaume 103 de David. « Mon âme, bénis l'Éternel, que tous ceux qui sont en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa voix. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Eh bien, voilà un hymne à la grâce de Dieu, un beau psaume à la grâce de Dieu. Un beau cantique. Tout d'abord, des versets 1 à 5, David évoque les bienfaits de la grâce de Dieu dans sa propre vie. Il nous encourage aussi à discerner les bienfaits de la grâce de Dieu dans nos propres vies. Quand David dit au verset 1, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous connaissons ce psaume, mais nous devons encore le prendre et l'écouter, le lire à haute voix, le passer dans notre esprit, dans notre cœur, pour que la grâce de Dieu brille encore davantage, que nous puissions avoir confiance en lui. Quand David médite sur la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans sa propre vie, il est poussé à adorer Dieu. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Avez-vous remarqué de quelle façon David s'exprime? Avez-vous remarqué le ton de ses propos? C'est l'impératif, c'est l'exhortation. David ne dit pas « si je veux bénir l'Éternel, voilà. Si j'ai envie aujourd'hui, je vais le faire, si je n'ai pas envie, je ne vais pas le faire. » Il ne prend pas non plus une adoration extérieure, mais ça n'a pas de substance. C'est l'exhortation, il s'exhorte lui-même. Au lieu de s'écouter, il s'exhorte lui-même. Des fois, nous nous écoutons avec nos difficultés, nos problèmes, nous n'écoutons pas le Seigneur. Nous ne parlons pas à notre âme, nous ne l'exhortons pas. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le peuple d'Israël a été au bénéfice de la grâce de Dieu, mais il a oublié les bienfaits du Seigneur. Et il a erré pendant 40 ans dans le désert. Et ceux qui ont été incrédules sont tombés dans le désert. Ils n'ont pas écouté au repos de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux en parle. Donc nous avons à fixer nos regards sur les bienfaits du Seigneur et sur celui qui nous procure ces bienfaits, Jésus-Christ. Il a payé de sa vie. Nous sommes rappelés ce matin que c'est son sang, par son sang que nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Il est allé jusqu'au bout pour nous. Donc nous n'avons pas de raison à rester dans la morosité, à donner une adoration minimum pour dire être silencieux. Les prières silencieuses doivent être une exception, pas la règle. Quand nous avons l'occasion de bénir le Seigneur, de le prier, de le remercier, faisons-le. Voilà. Et David nous exhorte à cela, à adorer le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc, et les bienfaits de Dieu que nous trouvons dans la parole de Dieu, que nous trouvons aussi dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Regardez notre sœur qui nous a fait un petit déroulé des bienfaits de Dieu dans sa vie, dans cette église des haies, dans cette église ici, Si nous prenons le temps de méditer sur la parole de Dieu, sur l'Éternel, sur ses promesses, nous allons bénir l'Éternel de tout notre cœur, tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Et donc, pour éviter l'absence d'adoration, la mollesse de l'adoration, David dit que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. David désire ardemment que sa louange soit la mesure de toutes les bénédictions de Dieu à son égard. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment n'aura-t-il pas toute chose avec lui? Donc il faut que notre adoration soit à la hauteur de ce que Christ a fait pour nous. Et David nous le rappelle ce matin. Et puis remarquez, David ne reste pas dans le flou. Il dit, Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et maintenant, il va dérouler jusqu'au verset 5 tous ses bienfaits, en substance. Alors, il commence au verset 3 en disant, « c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Voilà, David parle à son âme, il fait l'énumération précise des bienfaits de Dieu. Il y en a tant, mais voilà, il y en a pour nous quelques-uns, il dit ça dans une forme très poétique. Alors, déjà sous l'ancienne alliance, David a compris que la grâce, a compris les bienfaits de la grâce de Dieu envers l'homme pécheur. Le pardon de Dieu est de la plus haute importance. Si nous avons tout, sauf le pardon divin, nous n'avons rien. Nous n'avons rien, nous n'avons rien de valable. On trouve dans la Bible plusieurs personnes qui ont été riches, riches de biens matériels, d'argent, le jeune homme riche. Cet homme devant la porte duquel Lazare se couchait, riche aussi. Cet homme qui avait engrangé dans ses greniers beaucoup de biens, disait, mais mon âme, on va jouir. Et le Seigneur lui dit, mais voilà, tu as des biens matériels, mais ton âme, qu'en est-il? Pas de pardon divin, on n'a rien de valable. On a ce qui va durer un temps, le temps de cette vie, mais pour l'éternité, nous n'avons rien de valable. Si nous avons le pardon de Dieu, par contre, tout le reste est également promis. Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Et Colossiens, chapitre 2, verset 9 à 10, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Le pardon divin est donc le premier bienfait, le premier bienfait de sa grâce. Nous ne méritons pas le pardon divin. Et ce premier bienfait nous ouvre la porte à tous les autres bienfaits. Et David commence par là. Il reconnaît l'importance et la priorité de ce bienfait, le pardon divin. Et les effets du pardon s'étendent à la vie entière et même au-delà. On peut prendre Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Étant donc, à partir du verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et regardez ce qu'il dit au verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, le premier bienfait, c'est le pardon divin. Et ensuite, il dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, toujours au verset 3. Le Seigneur guérit toutes nos maladies. Nous prenons des médicaments, c'est vrai, nous avons la médecine, mais au final, c'est Dieu qui nous guérit. Nous pouvons le remercier pour ça, pour la guérison aussi. D'ailleurs, un des noms de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jéhovah Rapha, ce qui signifie l'Éternel qui te guérit. Voilà. Et dans le désert de Shur, près de Mara, l'Éternel a dit au peuple d'Israël, en Exode chapitre 15, verset 26, « Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Voilà. Nous avons une médecine de pointe en Europe, Mais derrière tout ça, c'est l'Éternel qui nous guérit. Et on peut le remercier pour cela. Alors, j'aimerais faire une remarque. Parce que peut-être que certains sont malades. Maladie chronique, maladie de longue durée. Et ils disent, mais l'Éternel ne me guérit pas. Il ne fait rien pour moi. Nous avons lu dans Pierre ce matin que nous avons des souffrances, mais pour affermir notre connaissance de Dieu, notre communion avec lui. Quand nous demandons pardon à Dieu à cause de nos péchés, il nous pardonne immédiatement parce que le pardon arrête la communion avec Dieu. Mais quand il s'agit de maladie, Dieu peut nous guérir tout de suite, mais il peut prendre le temps qu'il faut pour nous guérir. Parce que cela contribue, au contraire, la maladie peut contribuer dans le plan de Dieu à affermir notre connaissance de Dieu, notre connaissance de sa bonté, notre connaissance de ses voies. Ça a été le cas de Job. Vous vous rappelez, Job a été doublement éprouvé. Il a perdu ses biens, sa famille. Et puis, la deuxième épreuve, il a perdu la santé. Et il a perdu le soutien de sa femme. Et il a dit, l'Éternel l'a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il ne comprenait pas trop. Et ses amis, ses trois amis avec leur théologie, sont venus, au lieu de l'encourager, l'ont enfoncé davantage. Puisqu'on dit, ah, tu es malade, eh ben, Dieu ne t'a pas béni. C'est ce qu'on dit. Tu es malade, tu n'as pas d'argent, eh ben, Dieu ne te bénit pas. Eh bien, à la fin, Dieu a dit, tes amis ont mal parlé. Ils ont mal parlé. Ils ne connaissaient pas mes voies. Là, dans le plan de Dieu, il fallait que Job... Alors, Job ne comprenait pas ce qui se passait. Mais en fait, Satan disait, eh bien, Seigneur, tu vois que... Tu bénis Job, alors il te suit parce que tu le bénis. Tu vois. Mais enlève tout ça, tu vas voir s'il ne te maudit pas. Dieu a dit, eh bien vas-y, je te le laisse. Laisse sa vie seulement. Et la preuve a été faite que Job aimait le Seigneur parce qu'il était le Seigneur, pas pour ses biens. Et il a, au travers de cette maladie, il a appris à connaître davantage son Dieu. Voilà, ça nous arrive aussi, au travers de la maladie, à connaître davantage notre Seigneur. Ça a été donc le cas de Job, ça a été le cas de Paul. Vous connaissez bien ces références, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9. « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, c'est-à-dire cette écharde que Dieu lui avait mise dans le corps, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà. Donc, si nous sommes malades, ce n'est pas une malédiction de Dieu. Dieu le permet, nous devons le prier, demander qu'il nous délivre de la maladie, et en passant cette maladie, de demander la grâce aussi de supporter et d'apprendre ce qu'il a, ce qu'il veut que nous apprenions au travers de cela. Nous sommes maintenant au verset 4, un déroulé encore des bienfaits. « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Il nous couronne de bonté et de miséricorde. Couronné de bonté et de miséricorde. Ça veut dire que la bonté et la miséricorde de Dieu sont abondantes. Ce n'est pas un petit filet. Il nous couronne de bonté et de miséricorde. Il nous délivre de la fosse. Dieu nous délivre de beaucoup de choses, de la mort prématurée. Il nous délivre aussi de bien des dangers dont nous n'avons pas conscience. On peut le remercier pour ça. On est vivant, on ne sait pas ce qui serait passé si Dieu n'avait pas mis sa main là et là. Ce matin, non. En venant, on a vu un accident sur la route, ça aurait pu être nous. Et je me suis vu, moi, dans l'ambulance, parce que j'y étais déjà. Ça arrive, sans qu'on s'y attende. Eh bien, Dieu nous protège de la fosse. Il nous protège d'une mort prématurée. Et d'ailleurs, si vous regardez le psaume 102, tout à côté, psaume 102, verset 25, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Voilà un homme qui priait Dieu de ne pas l'ôter pendant qu'il est encore vivant, pas trop tôt Seigneur, au milieu de mes jours, pas trop tôt, laisse-moi le temps d'apprécier ta grâce. Voilà. Donc, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. L'affirmation « c'est lui qui te délivre de ta vie de la fosse » a une portée bien plus lointaine, bien plus grande qu'aujourd'hui, que le temps de notre vie. La vraie délivrance de la fosse, c'est la résurrection. Voilà. « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» disait Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Donc, si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous savons qu'il va délivrer notre vie de la fosse. Qu'on sera aussi avec lui, pour régner avec lui, pour vivre avec lui dans la félicité du ciel. Voilà la vraie délivrance de la mort. Et au verset 5, « Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Dieu a déjà accompli de grandes choses pour David, et dans l'avenir, il veut donner à son enfant tout ce dont il a besoin pour le corps et l'âme. Regardez, les bienfaits de Dieu, les bienfaits de sa grâce sont aussi bien pour la santé spirituelle que pour la santé physique. Et quand il parle de l'aigle, on sait que l'aigle a la réputation d'avoir une longue vie et une grande force. Son plumage se renouvelle chaque année, si bien que l'aigle, on a le sentiment que l'aigle rajeunit toujours, que l'aigle rajeunit constamment. C'est Isaïe, chapitre 40, qui reprend cette image, et vous pouvez prendre cette référence avec moi. Isaïe 40, verset 30 à 31, l'image de l'aigle qui rajeunit, ou plutôt le Seigneur qui agit dans nos vies, de telle sorte à ce que nous soyons comme l'aigle. Jérémie, chapitre 40. Isaïe, pardon, oui. Isaïe. Isaïe, tout à fait. Merci. Isaïe, chapitre 40. On commence au verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Même quand les forces physiques du croyant déclinent, à cause de l'âge, à cause du grand âge, ses forces spirituelles augmentent parce que l'Éternel le fortifie. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour par les bienfaits de la grâce de Dieu. Ainsi, dans ces premiers versets, David a exhorté son âme à se souvenir des bienfaits de Dieu envers lui. Il a pris le soin de les énumérer. Ce n'était pas quelque chose de vague, ce n'était pas quelque chose de superficiel, c'était quelque chose de solide. David ne méritait pas toutes ces bonnes choses, comme nous d'ailleurs, nous ne méritons pas toutes les bonnes choses de Dieu. Elles sont le fruit de la grâce de Dieu à son égard. Et David exhorte son âme à ne pas oublier les bienfaits de Dieu et à bénir l'Éternel. Malgré le ton d'exhortation, avez-vous remarqué aussi que David est reposé dans ce qu'il dit? Il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'angoisse. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et souvent dans la vie, nous mettons nos œuvres, nos compétences en avant, nous oublions l'Éternel, il est loin, il n'occupe pas la première place, il n'occupe pas nos pensées, c'est nous et nous et nous. Mais David, lui, il n'oublie pas l'Éternel, il n'oublie pas ses bienfaits, il évoque les bienfaits de la grâce de Dieu dans sa vie. Tout lui vient de Dieu, il ne mérite rien, mais tout lui vient de Dieu. On peut parler, dire quelle grâce, quel repos céleste, et ça me fait penser à l'épître aux Philippiens. Prenons Philippiens, chapitre 4. L'apôtre Paul a été un homme beaucoup éprouvé dans sa vie. Il a fait de la prison. Il a eu des marques sur son dos qui attestaient son apostolat. Il n'a jamais été découragé, n'en a voulu à personne, parce qu'il savait que dans tout ça, Dieu était avec lui et c'était l'essentiel. Et il dit, dans Philippiens, chapitre 4, au verset 11, on peut commencer au verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie. » Philippiens chapitre 4, verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Il a reçu un don. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voilà un peu ce que David résume aussi. Enfin, Paul dit cela et c'est un peu, il me semble, la pensée de David. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il nous faut compter les bienfaits de Dieu. Il nous faut nous exhorter à compter les bienfaits de Dieu et surtout à remercier le Seigneur, à bénir le Seigneur. Donc, David nous encourage à compter les bienfaits de Dieu dans nos propres vies, dans nos vies. Compter les bienfaits de Dieu, ne pas les oublier et surtout d'être reconnaissant. David donc a vu les bienfaits de Dieu, les bienfaits de la grâce de Dieu dans sa propre vie. Maintenant, il va élargir sa vision dans les versets suivants, versets 6 à 18, pour évoquer les bienfaits de Dieu, les bienfaits de la grâce de Dieu à l'égard du peuple de l'Alliance. Ce n'est pas lui seulement qui bénéficie de la grâce de Dieu, des bienfaits de la grâce de Dieu, mais tous les enfants de Dieu bénéficient de ces bienfaits de la grâce. Alors, ça commence au verset 6, lorsqu'il dit « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Voilà une parole qui est forte, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Quand on entend les actualités, quand on pense même à certains épisodes de l'histoire, on a le sentiment que ça ne se réalise pas, que les opprimés sont toujours opprimés et qu'il n'y a pas de justice. Mais pour le peuple de Dieu, il y aura à la fin une justice. L'histoire d'Israël le prouve. L'histoire d'Israël le montre. Pour le peuple de Dieu, il n'y a pas d'oppression qui n'aboutisse pas à une délivrance. Voilà, il était oppressé pendant 400 ans en Égypte. Il semblait que rien n'allait le sortir de là, mais l'Éternel a délivré les opprimés. Et le psalmiste donc pense particulièrement à la sortie d'Égypte quand il évoque au verset 7, « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres d'enfants d'Israël. » L'Éternel a manifesté ses voies à Moïse d'une façon orale quand il a dit tout ce qu'il allait faire pour le peuple d'Israël, tout ce qu'il était aussi Dieu, il était leur Dieu. Et là aussi, manifester ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël, en agissant, en faisant comme il avait promis. Notre Dieu ne promet pas et puis il reste les bras croisés. Il nous promet pour que nous ayons confiance en lui parce qu'il va dire, il va faire ce qu'il a promis. Dieu a agi d'ailleurs conformément à ce qu'il est. Au verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et ça nous rappelle, enfin, David en train de se rappeler un épisode fondateur de l'Alliance. Moïse avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et Dieu est passé devant lui et lui a dit, dans Exode, chapitre 34, verset 6, « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Ces paroles sont profondes. L'Éternel est miséricordieux. Quand on souffre, quand on est dans la peine, Dieu n'est pas là en train de nous regarder. Il compatit avec nous, et compatissant, il comprend. Il est avec nous dans nos difficultés, lent à la colère et riche en bonté. Et David, d'ailleurs, développe le contenu de ses propos du verset 8 de trois façons. Tout d'abord, il va faire deux remarques, des versets 9 à 10. Ensuite, il va nous donner trois illustrations qui vont montrer l'infini de la grandeur de la grâce de Dieu. Et enfin, il va montrer un contraste des versets 15 à 18, montrant que l'homme passe. Il n'est pas là pour tout le temps, sa gloire passe, mais l'amour de Dieu subsiste à jamais. Regardons d'abord, donc c'est un développement en quelque sorte de ce verset 8. Regardons d'abord deux remarques restrictives, versets 9 à 10. Alors verset 9, il dit, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas, verset 10, selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Alors, le verset 9, quand il dit « ne conteste pas sans cesse », l'idée est reprise d'une façon parallèle quand il dit « il ne garde pas sa colère à toujours », c'est la même chose dite d'une autre façon. Et au verset 10, quand il dit « il ne nous traite pas selon nos péchés », il reprend la même idée, mais d'une autre façon, il ne nous punit pas selon nos péchés. Si vous vous connaissez vous-même, si vous connaissez la nature humaine, vous savez que quand l'homme est en colère, quand il n'est pas content, il a tendance à être rancunier. Il ne veut pas passer l'éponge. Il entretient les griefs, les querelles, ça n'arrête pas. Mais l'Éternel ne fait pas comme ça. Et pourtant, il est bien plus offensé qu'un homme. Quand nous offensons l'Éternel, c'est le Dieu sait que nous offensons. Quand nous avons des problèmes entre nous, c'est des pécheurs. Mais quand nous péchons contre Dieu, c'est contre le Dieu saint, le maître de l'univers. Donc l'offense est plus grande et pourtant, Dieu ne réagit pas comme nous faisons avec nos semblables. Il nous a dit que Dieu tempère à la fois sa colère. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Mais aussi, il tempère son châtiment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ce sont deux remarques restrictives importantes. Ça veut dire que Dieu fixe deux limites à sa colère contre le péché. D'une part, une limite dans le temps. Il ne reste pas à garder sa colère longtemps contre nous. Et aussi, une limite dans la sévérité du châtiment. Parce qu'on ne mérite pas ce qu'on devrait. Dieu ne nous donne pas ce qu'on devrait. Il ne nous punit pas selon l'intensité, la grandeur de l'offense. Vous voyez la bonté de Dieu ? Alors, le deuxième point que David développe et qui éclaire un peu ce verset 8, il va proposer des illustrations qui vont montrer la grandeur de la grâce de Dieu. Le verset 11, tout d'abord, première illustration. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » L'amour de Dieu est aussi grand que le ciel est élevé. On ne peut pas toucher le ciel. Eh bien, l'amour de Dieu est grand. Et l'apôtre Paul disait... qui voudrait connaître l'amour, la longueur, la largeur, la profondeur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, dans Éphésiens chapitre 3. C'était sa prière de connaître la profondeur de l'amour de Dieu pour lui. Voilà. Eh bien, et remarquez, il dit, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Quand on est conscient de notre indignité, quand on sait qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu, on l'apprécie davantage. Dieu, nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Dieu dans sa grâce nous aime, si nous sommes ses enfants. Pour ceux qui le craignent, pour ceux qui sont conscients de leur petitesse, de leur indignité, c'était la première image, l'immensité de l'amour de Dieu. La deuxième illustration, c'est la suivante au verset 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Le pardon de Dieu éloigne nos transgressions, loin de nous. Et vous savez que l'Est et l'Ouest ne se touchent pas. Ne se rencontre pas, eh bien, le croyant ne peut pas rencontrer ses péchés si Dieu lui a pardonné. Jésus a porté, il a ôté nos péchés, il les a éloignés pour toujours. Dieu ne voit plus nos péchés, nous sommes en Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos efforts. C'était la deuxième illustration, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et la dernière illustration qui montre encore combien la grâce de Dieu est grande, Dieu sait de quoi nous sommes faits. C'est le verset 13 à 14, je lis. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Voilà, Dieu sait que nous sommes poussière, nous n'avons pas de valeur et pourtant, la compassion de Dieu est celle d'un père pour ses enfants. L'amour de Dieu envers nous est absolument gratuit. Il n'y a rien en nous de précieux, susceptible de mériter l'amour de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous sommes les bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Matthieu chapitre 6, votre Père qui est dans les cieux sait vos besoins. Votre Père céleste, voilà. Matthieu chapitre 7, verset 11, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent, voilà. En Christ, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas notre morale, ce n'est pas notre nature humaine. Rien en nous ne nous fait mériter l'amour de Dieu. Voilà. Parce que nous sommes poussière. Et le dernier développement, le troisième développement de ce verset 8, c'est une opposition, un contraste, verset 15 à 18. Alors, David dit, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Nous savons tous que nous avons un temps seulement à passer sur cette terre. Nous sommes comme la fleur, elle fleurit, elle tombe. La gloire de l'homme, c'est comme ça, ça ne dure pas. Par contre, l'amour de Dieu durera jamais. Sa grâce durera jamais. Hein? Et alors il nous est dit aussi pour ce verset 17, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Vous voyez toujours cette idée que si nous avons conscience de notre petitesse, alors nous allons apprécier davantage l'amour de Dieu pour nous. Et voilà que le Seigneur aussi connaît ses enfants. De toute éternité, il nous a mis à part. Il connaît ceux qui sont ses enfants. Il avait fait cette promesse à David de, qui est toujours un héritier sur son trône. Alors, il y a des enfants de David qui ont été, qui n'ont pas marché bien et droit avec le Seigneur, mais le Fils de Dieu, l'héritier de David, est venu. Le Seigneur connaît chacun de ses enfants. Et nous pouvons, si vous a appelé un jour, si vous avez répondu oui, vous pouvez avoir confiance en lui. Parce qu'il vous connaissait déjà, même avant que vous ayez répondu. Et d'ailleurs, c'est lui qui vous a donné la foi. C'est lui qui vous a donné une nouvelle vie, une nouvelle nature. Nous pouvons avoir confiance en lui. Parce qu'il est notre Père. Nous passons, mais l'Éternel demeure éternellement, son amour pour nous aussi. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, David a d'abord médité sur les bienfaits de la grâce de Dieu dans sa vie. Il nous encourage à faire de même. Il a ensuite élargi sa vision, se rendant compte que ce n'est pas seulement lui qui bénéficie de la grâce de Dieu, mais tous les enfants de Dieu. Et il va terminer sa louange en évoquant les bienfaits de la grâce de Dieu sur l'univers, pour exhorter aussi toute la création à louer le Seigneur. Et ce sont les derniers versets de notre psaume, versets 19 à 20. L'Éternel règne, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Le psaume avait commencé avec cette pensée. Mon âme bénit l'Éternel, elle se termine par cette pensée. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà. L'Éternel a créé toutes choses pour sa gloire. Et puisque l'univers a été créé pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu, toute la création doit le louer. Et le psaume se termine, comme j'ai dit, par cette même parole. Mon âme bénit l'Éternel. On aurait pu penser que c'est un solo. David est en train de louer tout seul. Mais non, la création entière se joint à lui. Et nous invite aussi à bénir l'Éternel, nous qui allons traverser l'année 2024, si nous voulons marcher solidement ancré dans la foi, confiant dans le Seigneur, à bénir, à compter ses bienfaits, à bénir l'Éternel. Et donc, chacune de ses œuvres à sa façon. Bénis l'Éternel pour les bienfaits. Les bienfaits que qu'Éric a reçus ne sont pas exactement les mêmes, ce que Tony a reçu. Chacun reçoit de Dieu un bienfait, des bienfaits, et peut bénir l'Éternel pour ses bienfaits. Donc, que chacun de nous puisse joindre ses actions de grâce à ce grand ensemble. Que chacun de nous, comme le psalmiste, puisse trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, la méditer jour et nuit pour persévérer dans la foi en Jésus seul, pour n'oublier aucun de ses bienfaits et pouvoir le bénir en retour. Amen.